pour l'association Moissac Ville de Juste Oublié, Jean-Luc Bécard s'entretient avec Serge Klarsfeld. Bonjour Serge Klarsfeld.
Et bonjour.
Vous serez à Moissac le 29 mai prochain pour une conférence. Pour vous, dans votre cheminement, Moissac représente quoi aujourd'hui ?
Moissac, ma sœur et moi, nous devons être les doyens pratiquement. On y était en 40, alors on est passé en 40. Après l'Exode, on était à Cap-Breton, de Paris à Cap-Breton, la veille de l'entrée des Allemands à Paris. Et ensuite, de Cap-Breton, on est allé à Moissac, sans doute, je dirais, sur l'assurance qu'il y avait des organisations juives. Et à Moissac, ma mère a dû recevoir le conseil d'aller à Grandbourg, près du Magellier, et parce qu'elle n'avait plus d'argent, elle était coupée de tout. Mon père était prisonnier depuis le 7 juin ou le mois de mai, pendant l'offensive allemande dans la Somme. Et il fallait survivre. Donc ma mère s'est installée à Grandbourg et elle nous a mis au Magellier à quelques kilomètres. Et comme ça, elle pouvait nous voir régulièrement. Et nous y sommes restés donc jusqu'à ce que mon père s'évade. Et qu'il nous rejoigne et qu'il nous emmène d'abord à Guéret, dans la Creuse toujours, et puis à Nice. Donc Moissac représente, j'ai un souvenir de Moissac, moi-même en train de me noyer dans la rivière qui est là-bas,
dans le Tarn,
voilà, et en train de m'accrocher aux herbes pendant que les enfants regardent, les camarades de jeu regardent ce qui va m'arriver. Et j'ai réussi à me sortir de l'eau et donc à survivre, voilà. Donc, Moissac est une étape, deuxième étape de l'Exode. Et en même temps, ça nous a dirigés sur l'Ozé. Et ensuite, Moissac, on n'a plus eu de contact avec Moissac. Voilà. Mais enfin, Moissac représente pour moi les éclaireurs, l'israélite, le sauvetage, l'amitié ou le fait que les habitants n'ont pas dénoncé la présence d'enfants juifs nombreux à Moissac. Ça, c'était important aussi. Donc, c'est une ville qui symbolise, en quelque sorte, la survie des Juifs en France, puisque quand même trois quarts des Juifs ont survécu, on le doit à la sympathie ou à la compassion des Français envers les Juifs, surtout les enfants, et surtout en milieu rural.
Qu'aujourd'hui, l'association Moissac Ville de Juste Oublié œuvre pour que justement on se souvienne que cette maison a été là, qu'elle a permis le sauvetage de ses enfants. Ça vous semble important qu'aujourd'hui on rappelle tout ça, qu'on en fasse un colloque, qu'on en fasse des publications ?
Bon, on ne fait pas le colloque sur simplement le fait que Moissac est, disons, oublié par rapport à une localité comme Le Chambon. Moi, je crois qu'il faut expliquer les situations particulières cas par cas. Et souvent, je me heurte un peu à un certain agacement quand j'explique Louis Le Chambon, ça existait, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait un préfet qui était philo-sémite et qu'il n'a pas lancé de rafle le 26 août 1942. Il faut pas oublier non plus qu'il y avait un colonel allemand qui n'a pas lancé non plus de rafle parce qu'il ne s'intéressait pas à la question juive. Ce sont aussi des facteurs qui expliquent s'il n'y avait pas de Gestapo dans la Haute-Loire, disons l'autorité militaire allemande dépendait du caractère de celui qui commandait. Il y a eu quelques arrestations, mais par des incursions des Gestapo des départements voisins. Et au puits, les Juifs, c'était une sorte d'oasis. Les gens allaient à la synagogue, Jean Kahn y a passé son bac, etc. Donc, Moissac, je ne peux pas dire quelle a été l'attitude du préfet vis-à-vis de Moissac en la circonstance du 26 août, parce que le préfet, ses descendants, ont fait savoir qu'il avait sauvé tous les juifs du département. Moi, je lui ai envoyé une liste de tous les juifs qui ont été déportés, qui n'ont pas été sauvés, qui ont été arrêtés par la police française. Mais il se peut que, et là, il faut vraiment sonder, travailler dans les archives pour voir quelle était l'attitude du commissaire à Moissac, quelle était l'attitude de la population, etc., pour voir pourquoi le 26 août 1942, finalement, il n'y a pas eu de rafle, il n'y a pas eu de descente chez les enfants, alors qu'il y avait quand même un certain nombre d'enfants qui n'étaient pas français, et qui était réfugié à Moissac. Il faut voir si la direction de la maison de Moissac a déclaré les enfants qui étaient polonais, allemands ou autrichiens et qui tombaient sous le coup des arrestations, etc. Ou si ils ne l'ont pas déclaré ou déclaré comme enfants français. Donc tout ça, justement, un colloque peut le faire savoir. Et peut aider à comprendre les tactiques de survie qu'il y a eu. Et quand il y a eu des rafles à Moissac, parce qu'il y en a eu en septembre 1943, la police française, la police allemande a arrêté des juifs français. Et à cette occasion, René Bousquet a dit à ses interlocuteurs allemands au plus haut niveau. Il a argumenté, comme il aurait dû argumenter en 1942, au moment de la rafle du Veldiv, en disant que être juif ne signifie pas qu'on doit être arrêté parce qu'on est juif, en gros. Et bien ça, il aurait pu le dire en 1942, il l'a pas dit, parce que à ce moment-là, on croyait en la victoire allemande. En septembre 1943, quand on arrête des juifs français à Moissac, ils protestent. Il est évident aussi que ça dépend des Allemands qui se trouvaient là, et je ne les connais pas. Et c'est difficile de savoir, 70 ans après, quel était le point de vue de ces Allemands, puisque votre mère m'avait dit, ils sont entrés, et puis ils ont parlé entre eux, et puis ils ont dit « on reviendra ». Mais je lui ai dit, s'ils ont dit « on reviendra », alors qu'elle avait un accent qui était quand même très fort, et qu'ils savaient que beaucoup de Juifs parlaient l'allemand ou comprenaient l'allemand, ils l'ont pas mis et ils l'ont pas arraché les ongles pour savoir où se trouvaient les enfants. Donc là aussi, on peut pas savoir. Il y a des Allemands qui n'ont pas arrêté, qui n'ont pas fait de descente dans des homes d'enfants, et d'autres comme Klaus Barbie ou Alois Brunner, qui ont mis la priorité sur les enfants parce que c'était se venger des Juifs et que pour eux, c'était les Juifs qui avaient, créé la défaite des Allemands, etc. Donc,
au-delà du caractère historique, dans notre période actuelle qui voit quand même les communautés se resserrer, se reformer, les oppositions se stigmatisaient. Est-ce que ce qui s'est passé à Moissac, dans cette maison qui a recueilli des enfants, cette ville qui a protégé des enfants d'une façon ou d'une autre, est-ce que ça peut nous apporter quelque chose? Est-ce que ça peut nous apprendre quelque chose?
C'est très difficile, les leçons de l'histoire sont valables quand il y a la prospérité, on les retient, mais quand il y a beaucoup de difficultés, on a tendance à oublier ces leçons et à laisser les pulsions, les instincts prendre le dessus. C'était différent comme période. À l'époque, il y avait les chrétiens et il y avait les juifs. Aujourd'hui, il y a les chrétiens, les juifs et les musulmans. Bon, les musulmans, comment dire, les juifs n'ont pas mené, ou les chrétiens n'ont pas mené contre les juifs. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y avait pas d'État juif, ouais, etc. Les musulmans ont en mémoire les guerres de conquête des chrétiens français ou allemands ou anglais dans les pays qui étaient les leurs et où les occidentaux venaient leur enseigner la civilisation. Ouais. Donc il y a une mémoire de la colonisation qui... comment dire, devrait mieux faire comprendre ce qu'a été le sort des Juifs, mais au contraire, dans l'islam fanatique, comme les Juifs se sont réinstallés en Israël, le Juif est le symbole de la colonisation, puisqu'on appelle colonisation les implantations dans la partie... qui n'est pas l'Israël de 48, quoi.
Ouais.
Donc, c'est difficile de comparer les années 40 avec aujourd'hui, d'autant que la solution est arrivée par l'armée et les armes.
Ma question ne portait pas tant sur la comparaison que sur peut-être un caractère un peu exemplaire et qui pouvait nous éclairer sur une certaine solidarité, sur une entraide qui peut exister dans des périodes aussi noires.
Oui, mais à l'égard de qui il y a une période noire actuellement? Il n'y a pas de période noire à l'égard des musulmans.
Non.
Ils sont pas... sont comme tout le monde dans la rue, dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a une certaine discrimination parce que socialement, ouais, ils sont plutôt au bas de l'échelle qu'en haut de l'échelle pour la plupart d'entre eux. Mais comment dire, sinon, nous ne sommes pas dans une période noire, hein, du tout. Pour les juifs, il n'y a pas de question. Il y a des attentats, ce qui est terrible. Et d'un autre côté... les juifs sont présents partout, à tous les niveaux, dans tous les postes de responsabilité, etc. Donc on ne peut pas parler de... Ce n'est pas une période noire, il n'y a pas d'occupants, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de persécution. c'est le terrorisme musulman qui gâche la situation, mais sinon il n'y aurait pas beaucoup de problèmes. La masse, je crois, des musulmans tend plutôt à s'intégrer, ils sont heureux d'être là plutôt que
de pouvoir vivre tranquillement.
Que d'être en Algérie où il n'y a pas de travail, ou Dieu sait où, et de gagner beaucoup plus de liberté. Ils n'osent peut-être pas le dire, mais ils ont peut-être aussi... dans leur mémoire collective, un certain nombre de ressentiments à l'égard d'une mémoire qui n'est pas reconnue comme elle pourrait l'être, quoi. Mais il n'y a pas d'attentats nombreux en France.
Non.
Il y a 6 millions de musulmans, peut-être. Il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Hein. Il n'y a pas besoin de... Comme pour...
les attentats de novembre ou Charlie, d'une préparation minutieuse à l'étranger avec des armes sophistiquées. Regardez ce qui se passe en Israël, il suffit d'avoir un instrument contondant, un couteau, et puis on peut causer autant de dégâts que l'on veut. Mmh. Donc, s'il n'y a pas ces attentats, c'est que la masse des gens, des musulmans, n'ont pas envie de les commettre, hein, à mon avis. Bon, ça, c'est réconfortant. Mais d'un autre côté, il y a quelques milliers de personnes qui sont fichées comme étant susceptibles. Cela, il faudrait prendre des mesures beaucoup plus efficaces pour. Et si on les avait prises vis-à-vis de ces personnes,
plutôt.
Il n'y aurait pas eu d'attentat, ils étaient tous fichés. Hein. Enfin.
Hier, nous étions avec Jean-Claude Grimbert, et il nous disait que, parallèlement à ce que le grand public connaît de votre travail, que vous réalisez avec votre épouse, Béate, sur la chasse des criminels nazis, hein, on peut grosso modo le résumer à ça, vous avez aussi participé à redonner des racines aux Juifs de France.
Non, pas des racines, j'ai expliqué ce qu'était la solution finale, et je l'ai expliqué avec les documents que j'ai pu obtenir, c'est-à-dire j'ai ouvert les archives, c'était mon rôle essentiel, et puis d'écrire l'histoire de la solution finale et de montrer, alors qu'avant il y avait ceux qui écrivaient qui étaient des supporters de Vichy et d'autres qui disaient que la France c'était un pays dénonciateur, tout le monde était antisémite, etc. Eh bien, j'ai pu montrer que oui, Vichy est responsable de la perte d'un quart des Juifs, et que d'un autre côté, la population française non juive a aidé à sauver trois quarts des Juifs. Voilà, ça c'est aujourd'hui, je dirais, la thèse officielle, mais elle est fondée quand même sur une masse documentaire tout à fait précise. Et bon, les travaux historiques que j'ai faits, c'était essentiellement voilà, le mémorial de la déportation et l'histoire de la solution finale, plus quelques autres ouvrages, mais c'est de redonner une identité à ceux qui avaient été les victimes, établir aussi les liens de famille, et puis écrire l'histoire précisément de la solution finale et imposer, si vous voulez, ma vision, non pas par la force, mais par la force des documents. Quoi. Voilà. Et donc, c'est un rôle qui était complémentaire de celui des procès, et surtout que dans les procès, on n'a pas pris des gens subalternes comme on prend un cuisinier ou un comptable à Auschwitz, mais de prendre les dirigeants allemands et de prendre des personnages français, Bousquet, Le Guay, Papon, qui étaient aussi au sommet de l'échelle. Quoi.
Alors précisément, vous citez Bousquet, vous citez Papon, tout ça s'est passé dans le sud-ouest aussi.
Oui, Bousquet, c'est Montauban. Montauban. Papon, c'est le sud-ouest, mais c'était une pièce à porter. Lui, il venait pas de.
Mais il a sévi dans le sud-ouest.
Il a sévi dans le sud-ouest, oui. Lui a sévi en zone occupée. Mais si vous prenez les. J'ai pas voulu faire. Comment dire. Ben, enfin, moi, j'ai pris en considération quand même, quand nous avons fait le procès Papon, j'ai pris en considération ce qu'il fallait reprocher à Papon. Et c'est pourquoi nous avons été les seuls à demander 10 années de prison pour Papon et ne pas demander la perpétuité, parce que Papon, lui, avait les Allemands sur le dos, tandis que le préfet Martin n'avait pas les Allemands sur le dos. Et tous les préfets de la zone libre ont arrêté les Juifs sans avoir d'Allemands sur le dos, tandis que lui était en zone occupée, et que c'était pas tout à fait la même chose, hein, d'avoir les Allemands sur le dos. Donc, bon, enfin, j'ai pris en considération d'autres éléments, mais...
ça veut dire que vous avez trouvé les circonstances...
Bousquet, Bousquet, c'est un. Oui, c'est, il a sévi pendant la guerre, et surtout à l'échelle nationale, on peut dire. Et puis après la guerre, il a joué toujours un rôle à Toulouse.
Oui, bien après la guerre, d'ailleurs.
Oui, bien après la guerre. Oui.
Ça veut dire que vous lui trouvez des circonstances atténuantes à Papon ?
À Papon ? Je ne trouve pas des circonstances atténuantes. Je trouve que ce qu'il a fait n'est pas décisionnaire. Il n'a pris aucune décision. Hein. On a bien regardé. On connaissait très bien le dossier, mieux que les autres, certainement. Et il n'a pas pris de décision. Il a, à chaque fois, il s'est couvert. À chaque fois, il a demandé les ordres, qu'on lui explique les instructions d'un gouvernement qu'il considérait comme légal. Et il a appliqué les décisions avec... Oui, une certaine humanité quand même, parce qu'il est intervenu à plusieurs reprises pour les gens qu'il considérait à l'époque, selon les critères d'un préfet ou d'un secrétaire général de préfecture, comme étant des juifs intéressants, anciens combattants, professeurs d'université, etc. Mais il n'a pas été décisionnaire en aucun cas, quoi. Donc, mais il accomplit les actes qu'on lui demandait. Or, il n'aurait pas dû les accomplir parce que ces actes allaient à l'encontre des valeurs et à l'encontre même des lois, en particulier pour les enfants. Il s'agissait pour l'autorité publique d'un kidnapping des enfants et de leur remise à, disons, des personnes qui leur feraient connaître un sort qui ne serait pas un sort aimable, quoi. Donc... 10 années, c'était ce qu'il méritait, parce qu'il faut quand même une peine graduée entre un Hagen, un Lichka, qui décide de l'arrestation de milliers de personnes et pour les tuer, quoi. Tandis que lui, on n'a pas pu prouver qu'il avait la connaissance subjective
de la solution finale.
De la destination. Il pouvait l'avoir, il pouvait ne pas l'avoir, mais on ne peut pas scruter... 50 ans après, on ne peut pas trouver ce qu'il pensait. Donc, 10 années, c'était ce qu'il méritait, oui.
Alors, vous serez donc à Moissac avec votre épouse le 29 mai. Vous avez déjà une idée du contenu de votre intervention, ce sur quoi vous interviendrez ce matin-là?
Justement, peut-être sur sur les cas particuliers, parce que, si vous voulez, mon point de vue, c'est que c'est l'ensemble de la population française qui mériterait le titre de juste. Et pas simplement des cas particuliers. Vous voyez, 3/4 des juifs, c'est 240 000 juifs. 240 000 juifs, on ne peut pas le réduire à Le Chambon, Moissac, Dieulefi, etc. Alors peut-être il faut le dire, et peut-être il faut dire aussi, bon, on le sait, mais que les justes, ne couraient pas le risque de la vie et de la mort. Une personne qui prenait un enfant sur l'escalier parce que la mère le lui tendait, la police française pouvait lui faire une réprimande. Mais elle ne l'arrêtait pas. Elle a arrêté ceux qui, à la demande des Allemands, avaient porté des étoiles jaunes. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas encore un seul cas de juste mis à mort parce qu'il avait aidé des Juifs en France. Ça aussi, peut-être que ça doit être dit, même si ça gêne, parce que... Beaucoup de gens en France ont aidé les Juifs à un moment ou à un autre, n'ont pas dénoncé, etc., etc. Donc, mais c'est un environnement humain qui a permis ce sauvetage massif. Sinon, c'est Vichy qui est responsable de la sauvegarde des Juifs. Mais il faut expliquer comment l'attitude de la population et des églises a influé sur Vichy,
oui.
Parce que Vichy aurait pu arrêter beaucoup plus de Juifs. Mais si Vichy ne l'a pas fait, c'est qu'il y avait cet avertissement donné par la population française des zones libres lorsqu'il y a eu les rafles d'août 1942.
Voilà. Mais est-ce que cette position ne risque pas de faire oublier que quand même un certain nombre de Français, loin d'être des justes, ont dénoncé, ont participé à ce mouvement qui devait mener des Juifs à la mort?
Il y a beaucoup d'antisémites qui ont aidé les Juifs, beaucoup de résistants qui n'ont pas aidé les Juifs. C'est très difficile à dire, mais... Enfin, je pense pas que, comment dire, ça porte une ombre sur... ça montre la complexité de la situation de l'époque, et en particulier, ce sont des réflexes humains, à la fois, à mon avis, chrétiens et républicains, qui font que, lorsqu'on a vu la ligne rouge transgressée, ou la ligne jaune, c'est-à-dire l'arrestation des femmes et des enfants, à ce moment-là, les Français ont réagi très selon la formation qu'ils ont reçue. Mais la plupart des Juifs en France ont été arrêtés soit par les rafles de la Gestapo en 1943-1944, soit par l'État français. Et l'État français n'a jamais demandé aux Français s'il était d'accord sur la politique anti-juive. Donc, je dirais que ceux qui haïssaient les Juifs n'ont pas été nombreux et n'ont pas sévi, comme on l'a dit, surtout dans le domaine des dénonciations. Mais les Juifs voulaient être, après la guerre, voulaient être victimes des dénonciations parce que le rôle de l'État, qui est une sorte de puissance éloignée, ça leur plaisait pas. Ils voulaient être dénoncés par le voisin, par la concierge, etc. Alors,
moi, donner une chair à leurs dénonciateurs.
Oui, moi, je me suis évertué pendant des années à leur dire, vous étiez recensé, regardez, vous étiez polonais, vous étiez ex-polonais, vous étiez sur la liste du recensement, etc. Et donc, vous n'avez pas été arrêté par dénonciation, mais parce que vous êtes allé au recensement, pour une raison ou pour une autre, mais 90% au moins des Juifs sont allés au recensement.
Donc, on pourrait dire que votre démarche a toujours été plutôt une recherche de vérité qu'une recherche de vengeance.
Ah oui, c'est une recherche de vérité, pas de... La vérité, elle se situe là où elle est. Et on ne peut pas dire que... si la vérité avait été que la population française avait réclamé à Vichy de... Il faut arrêter les Juifs, il faut, etc. Mais c'est Vichy qui a pris cette... la presse, elle était aux ordres du gouvernement, elle ne pouvait pas dire nous aimons les Juifs, etc. Mais, en règle générale, c'est plutôt l'État français qui était antisémite par nature, qui ne voulait pas la mort des Juifs, à mon avis, mais qui, le jour, d'abord a pris énormément de mesures anti-juives et qui, le jour où les Allemands lui ont demandé les Juifs, a commencé à les livrer. Voilà, alors qu'il pouvait ne pas les livrer. Mais c'était déclenché une crise avec les Allemands et là, ils ont hésité et ils n'ont pas voulu, avoir une crise ouverte avec les Allemands.
C'est cette thèse que Jacques Chirac a reprise quand il a reconnu la responsabilité de l'État français.
Non, il n'a pas reconnu la responsabilité de l'État français. Mitterrand l'avait reconnu avant lui. C'est la rupture avec Mitterrand et avec De Gaulle, c'est qu'il a reconnu la responsabilité de la France. La France était engagée par les agissements de l'État français. C'est-à-dire, c'est reconnaître que Vichy était un gouvernement légal. Ce que le Conseil d'État a fait avancer comme notion aussi depuis. Et c'est pas une parenthèse, comme si des gangsters s'étaient emparés du pouvoir. Hein. Donc, peu à peu, c'est ce qui apparaît. C'est une guerre civile entre deux gouvernements. Entre deux gouvernements, l'un qui était issu d'une situation exceptionnelle, mais qui apparemment était légale, hein, parce que une Assemblée nationale et un Sénat légèrement à gauche ont donné les pleins pouvoirs, c'est une démarche qui est une démarche, je dirais, habituelle depuis l'Antiquité. Ouais. Hein, on confie à un dictateur les pleins pouvoirs pour qu'il rétablisse la situation. Hein. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a dit « Je suis la France, je suis membre du gouvernement et je continue la lutte au nom de la France. » Ensuite, c'est une guerre civile, voilà. Mais les deux gouvernements sont légaux, l'un et l'autre.
Bon, on va vous retrouver donc fin mai à Moissac. Merci de nous avoir fait le plaisir de nous recevoir. Thank you.